Radio Kapi. Oh, Kapi.
Chaque jeudi, quatre membres de l'opposition politique congolaise organiseront un sit-in devant les installations de la CENI à Kinshasa. Décision de Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delice Sanga ce jeudi, après avoir été empêchés d'atteindre le siège de la CENI pour un sit-in programmé au lendemain de la marche du 20 mai dernier. Dans ce journal, les propos de Martin Fayulu, président de l'ECID. 215 millions d'euros pour réhabiliter et moderniser trois groupes au barrage Dinga. L'accord de principe sur le financement de ce projet a été remis hier mercredi à Pékin, en Chine, au directeur général de la SNEL par le groupe chinois Senec. Les travaux devront débuter dans 2 mois environ et pour une durée de 2 ans. Modeste Kabazi, coordonnateur provincial de la société civile du Tanganyika, est l'invité de ce journal. Il revient sur la crise politique qui secoue cette province et donne des pistes de solutions. Bonsoir à tous. Désormais, chaque jeudi, quatre membres de l'opposition congolaise organiseront un sit-in devant les installations de la CENI. C'est la décision prise par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delice Sanga ce jeudi, après avoir été empêchés d'atteindre le siège de la CENI pour leur sit-in programmé au lendemain de la marche du 20 mai dernier. Pendant plus de 3 heures, ses opposants avec leurs sympathisants sur le boulevard du 30 juin se sont heurtés à la police, déterminés à ne pas permettre leur progression au niveau de la BCDC. Au dire de Martin Fayulu, l'ordre intimé à la police pour les empêcher d'organiser leur sit-in est un ordre illégal et la police ne devrait pas obtempérer car, estime-t-il, ils étaient dans leurs droits garantis par la Constitution. Martin Fayulu revient par ailleurs sur le pourquoi de ce sit-in. Il est au micro de Jacques-Yves Molima.
Les policiers ne sont pas obligés d'accepter un ordre manifestement illégal. Nous sommes dans nos droits et il faut respecter la Constitution. La Constitution est claire. Okay, nous pouvons faire un sit-in devant la CENI. Et c'est ce que nous voulons. Pourquoi nous le faisons? C'est pour dire à M. Kadima et à ses amis et à M. Félix Tshisekedi que c'est fini. Le hold-up électoral, c'est fini. Le hold-up électoral qu'il est en train de préparer, nous l'avons compris et nous l'avons démasqué. Et il faut arrêter. Un fichier électoral doit être un fichier fiable. Le fichier qu'il a proposé n'est pas fiable, il faut qu'il arrête. Et c'est pour cela, nous sommes là, nous allons encore revenir jeudi prochain. Tout le jeudi, nous serons ici.
Et bien entendu, cette manifestation de l'opposition a entraîné une certaine paralysie des activités et a perturbé la circulation aux alentours du siège de la CENI dans la commune de la Gombe vers la gare centrale tout l'avant-midi de ce jeudi. Retour sur ce qui s'est passé cet avant-midi avec notre reporter Jacques-Yves Molima qui était sur place.
C'est la patrouille de la police qui sillonne la zone où toutes les voies qui mènent vers le siège de la CENI sont barricardées. Prenant en contre-pied, les agents et fonctionnaires dont les bureaux se trouvent dans ces encablures. Il faut exhiber sa carte de service pour avoir accès, disent des policiers, à ces postes de circonstance, explique cette dame. Pendant ce temps, sur le boulevard devant BCDC, le leader de l'opposition débarque. Il est presque 9h. Martin Fayulu, Delice Sanga, Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi, accompagnés par une foule de sympathisants. Ils sont bloqués par un dispositif imposant de la police. Ils ne peuvent pas passer. Une discussion interminable est engagée entre les hauts gradés de la police et les leaders de l'opposition.
Vous allez émettre votre mémo.
En effet, la police attend convaincre les opposants à ne déléguer que 10 d'entre eux. La foule n'est pas d'accord et Delice Sanga martèle.
Nous nous sommes battus dans ce pays pour avoir un ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, c'est l'irrégularité totale. Et ça, c'est inacceptable.
Après plus de 3 heures de confusion, c'est par un coup de force que la police a réussi à repousser un groupe de manifestants, dont Katumbi et Matata. Mais Martin Fayulu prévient.
Nous allons encore revenir jeudi prochain. Tout le jeudi, monsieur, nous serons ici.
C'est finalement vers 12h30 qu'ils ont quitté les lieux et la circulation est redevenue normale.
Le président Félix Tshisekedi, qui effectue une visite d'État en Chine, dénonce la collaboration entre la force de l'EAC et les rebelles du M23. C'était ce jeudi à Beijing, devant les Congolais vivant sur place. Il y a une sorte de collaboration entre la force de l'EAC et les rebelles ou terroristes du M23, à l'exception du contingent burundais qui applique au vrai sens du mot les accords tels qu'ils étaient prévus. J'en veux pour preuve l'intervention des Burundais lorsque les terroristes du M23 commençaient à prélever illégalement des taxes axes dans les territoires qu'ils occupaient. Quant aux autres, la cohabitation continue, a dit le chef de l'État. Il a également dénoncé l'agression rwandaise contre laquelle la RDC, je cite, « sans se laisser faire, a mis en place un plan d'action ». Fin de citation. Et dans le cadre de la coopération bilatérale Chine-RDC, près de 215 millions d'euros du groupe chinois Senec sont disponibles pour réhabiliter et moderniser trois groupes au barrage Dinga. L'accord de principe sur le financement de ce projet a été remis hier à Pékin au directeur général de la SNEL. Après ces travaux, le barrage Dinga récupérera 510 MW. Cela permettra à la SNEL d'améliorer sa desserte en électricité. Les travaux débuteront d'ici à 2 mois et devront durer 2 ans. Au micro de Jocelyn Moussaou-Pondé, notre envoyé spécial à Beijing, écoutez le directeur général intérimaire de la SNEL. Teddy Luamba explique l'impact de ces travaux sur la qualité de service de son entreprise.
Nous avons une capacité installée de près de 2800 MW en RDC avec un indisponible de 518 MW. Récupérer 510 avec toute fiabilité, ça veut dire que c'est la qualité de notre desserte qui s'améliore, c'est la disponibilité de notre fourniture en termes d'électricité. C'est un coup de pouce que l'on donne à notre économie parce qu'il faut savoir que l'électricité, c'est un secteur porteur du développement de la RDC. Donc je pense que les retombées seront très positives. Et ce sont de telles initiatives que notre management est en train de soutenir, ce qui justifie aussi notre présence ici. Donc, en principe, dans la fourniture, c'est global. Ça veut dire que nous avons le secteur urbain qui va bénéficier, le secteur industriel qui va bénéficier. Donc, c'est au bonheur de tous nos abonnés.
Notez que la contrepartie du gouvernement congolais dans ce projet est de plus de 32 millions d'euros, soit 15% du coût global. La Senec, qui apporte les 85% remboursables, est une filiale du groupe CEMOC, actionnaire majoritaire de Tenke, Fungurume Mining. CEMOC financera également à hauteur de 610 millions de dollars américains la construction d'un barrage hybride hydro-solaire d'une puissance de 638 MW dans le bassin du fleuve Lualaba. C'est en vue d'améliorer la desserte des zones minières du sud de la RDC. Et puis parlons de cet échange téléphonique le 23 mai courant entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi. Une dépêche du département d'État parvenue à Radio Okapi ce jeudi indique que Anthony Blinken a exprimé sa profonde préoccupation pour les personnes tuées, blessées, déplacées et rendues vulnérables par la violence. La dépêche précise que les deux personnalités ont discuté de l'importance et de l'urgence du retrait et du désarmement du M23 conformément au communiqué de Luanda et pour toutes les parties de s'acquitter de leurs obligations du communiqué de Luanda, aussi de s'engager dans les cadres des processus de Luanda et Nairobi. Anthony Blinken a également souligné le droit du peuple congolais à manifester pacifiquement pour exprimer ses aspirations ainsi que l'engagement de son pays pour des élections libres et apaisées en RDC. La gestion des déchets électroniques, électriques et informatiques en RDC, défis et enjeux pour un développement durable. C'est le thème d'une table ronde de 3 jours qui a débuté hier à l'Université catholique du Congo à Kinshasa. Cette 5e édition est une fois de plus organisée par sa faculté des communications sociales. Samba Dimouke.
L'objectif est notamment de sensibiliser les décideurs et la population sur la gestion de déchets dangereux et très polluants que constituent le téléphone, frigo, ordinateur et autres biens d'usage courant. Le doyen de la faculté de communication sociale explique.
Quand vous achetez votre téléphone, en principe est inclus les prix pour que ça soit récupéré par celui qui vous l'a vendu. Cette clause n'est pas respectée.
Le professeur Hilaire Mbillé, initiateur de cette rencontre, exhorte le gouvernement à définir une politique claire en la matière.
Nous attendons que le pouvoir public définisse une politique claire dans le domaine de la gestion des DEI. C'est ce qui manque. En parlant des pollueurs-payeurs, est-ce qu'on doit sanctionner le fabricant ou l'utilisateur?
Didier Kabongo, représentant de la ministre de l'Environnement, affirme les recommandations qui en sortiront aideront le gouvernement à améliorer sa politique dans ces secteurs.
Donner au gouvernement des recommandations pouvant permettre d'améliorer sa politique environnementale.
Parmi les intervenants à cette rencontre, on note les grandes entreprises informatiques de la place, celles de télécommunications, des entreprises brassicoles, la SNEL et des agences de publicité.
Parlons santé à présent. L'épidémie de choléra est sous contrôle dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga après 329 cas enregistrés avec 11 décès. L'information a été livrée à la presse hier par une équipe de l'ONG internationale Médecins sans frontières. D'après cette dernière, c'est la zone de santé de la Katuba qui a été la première à notifier de cas de choléra avant qu'une flambée ne soit constatée au centre de traitement de choléra de la Kenya. Ces cas provenaient de la zone de santé de Kisanga. On écoute à ce sujet Dr Grégoire Chilongo, responsable des activités médicales dans la riposte contre le choléra au sein de Médecins sans frontières. Il est au micro de Jean Gandou.
Dès qu'il y avait un cas suspect dans une zone de santé, dès que c'est confirmé, les activités devaient suivre tout autour des cas avec un rayon d'environ 100 mètres. On l'envoie au niveau de notre centre de traitement de la Kenya pour la prise en charge et les autres activités continuent. C'est entre autres la vaccination de ces ménages tout autour de ces rayons de 100 mètres qui a été tracé. Les activités aussi de prévention qui se faisaient avec la distribution des kits d'hygiène et la sensibilisation des ménages. Il y a eu une flambée des cas d'admission au niveau du centre de traitement de la Kenya jusqu'à dépasser la capacité d'accueil. Ça provenait de la zone de santé de Kisanga. On est revenu pour donner encore une fois de plus un appui à la DPS par rapport à la prise en charge au niveau du centre de traitement de choléra de la Kenya. On a aussi développé des activités de prise en charge des cas simples au niveau de la zone de santé de Kisanga d'où provenaient les cas et aussi avec des activités communautaires de prévention en termes de la chloration d'eau et aussi de la sensibilisation.
Toujours dans le chapitre de la santé, notez la visite hier du vice-ministre de la Santé dans les établissements sanitaires de la ville de Kinshasa, spécialement dans les services d'accouchement. Selon Serge-Emmanuel Olen, cette visite entre dans le cadre du programme national d'accouchement gratuit du gouvernement. Après l'hôpital de Kimbanseke, celui des mères et enfants dans la commune d'Engaba, Serge-Emmanuel Olen s'est dit satisfait des travaux de construction du nouvel établissement prêt à accueillir les femmes enceintes au sein de l'hôpital général de Kinshasa. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Nous sommes venus dans le cadre de la vision du chef de l'État d'assurer les accouchements gratuits à la mère et à l'enfant, visiter les hôpitaux qui vont accueillir ces femmes, faire un état des lieux. D'abord, la mission première était d'observer et d'écouter. Et donc c'est des sentiments partagés et mitigés, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. On pourra commencer le projet pilote très rapidement. Et on a clôturé la visite donc ici sur le site de l'hôpital provincial de Kinshasa, où les travaux sont fort avancés. C'est encore toujours dans la vision du chef de l'État qui veut doter le pays d'infrastructures de qualité. J'étais vraiment impressionné de voir ce si grand chantier qui, dans quelques mois, pourra déjà ouvrir pour accueillir les patients. Je pense que si on attend qu'elle soit prête à 100%, on ne commencera pas. Il faut commencer au cours du processus, on va essayer d'améliorer. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui demandent encore une petite mise à niveau, mais dans trois quarts de centres qu'on a visités, je pense qu'on peut lancer le programme et accompagner cette vision-là très rapidement. Il y a moyen.
Au Nord Kivu, plus de trois quarts de la superficie du territoire de Lubero est sous le contrôle des groupes armés. C'est la société civile du dit territoire qui l'a affirmé hier à José Aouba, chef de bureau de la MONUSCO au Grand Nord Kivu. Sur place, il s'est imprégné du travail de la mission onusienne à travers ses différentes composantes pour la protection des civils dans la zone. Tout en réitérant l'engagement de la mission pour la recherche de la paix, José Aouba exhorte les acteurs de la société civile de Lubero à sensibiliser les membres des groupes armés qui sont du reste fils du terroir à adhérer au processus de paix. Guylaine Kassassia.
La société civile Force Vive du territoire de Lubero dit avoir répertorié une dizaine de groupes armés locaux dans ces territoires. Leur activisme est à la base de la sécurité permanente dans presque tous les villages et agglomérations du territoire. Par conséquent, toutes les actions de développement sont négativement impactées dans la région, d'où les plaidoyers de la société civile pour l'intervention de la MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, dans la restauration de la paix dans les territoires. Georges Katsongo en est le président.
Nous pensons que la MONUSCO, au niveau de la sécurité, peut toujours jouer son rôle aux côtés des acteurs étatiques et non étatiques afin que la paix et la sécurité soient une réalité.
La MONUSCO a tout de suite réitéré son soutien à toute démarche pour les retours de la paix dans la zone. De son côté, le représentant de l'administrateur du territoire à ses assises, le commissaire supérieur à Bamungu Jean-Paul, salue les soutiens de la MONUSCO à la police nationale congolaise qu'il commande dans les territoires de Lubero. Un appui qui cadre avec son mandat, celui de la protection des civils. Des retours de Lubero, Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Le 25 mai, c'est la célébration de la Noël kimbanguiste. À Kinshasa, les fidèles de Simon Kimbangu ont été nombreux aujourd'hui à défiler dans les rues en uniforme vert et blanc, flûte et fanfare à l'appui pour rejoindre leur lieu de culte. Benny Lomeka nous fait vivre l'ambiance qui a régné ce 25 mai au centre d'accueil kimbanguiste.
Le centre d'accueil kimbanguiste gruyait de monde ce jeudi aux couleurs de cette église, le vert et le blanc. Pieds nus, en chaussettes ou foulards sur la tête pour les dames, la joie était au rendez-vous. Le révérend Gaspard Mabiala, inspecteur provincial de l'église kimbanguiste à Kinshasa, explique le sens de cette célébration.
Aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous. Nous commémorons la naissance de papa de Noël Kangani Salomon, deuxième fils de papa Simon Kimbangu. Pour nous, le 25 mai, c'est la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Dans l'épître aux Hébreux, il est clairement détaillé qu'une première fois Jésus était arrivé pour la rémission des péchés, mais il apparaîtra une seconde fois pour le salut de ceux qui attendent son arrivée.
Les fidèles sont venus de tous les coins de la ville, ils expriment leur joie.
Je suis heureuse en ce jour de naissance de Papa Fumo Abanza, le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes purifiés depuis hier pour qu'il naisse de nouveau dans nos cœurs. Que ceux qui doutent prient et pour que Dieu leur montre le chemin.
Sachez que de saintes liesses et des célébrations ont eu lieu ce jour en Kamba, baptisé Nouvelle Jérusalem, ainsi que dans plusieurs villes de la RDC où cette église est implantée et même à l'extérieur du pays.
L'invité.
Notre invité s'appelle Modeste Kabazi. Il est le coordonnateur provincial de la société civile du Tanganyika. Il revient sur la crise politique qui secoue la province et donne des pistes de solutions. Il répond aux questions de Paul Amunanga.
Monsieur Modeste Kabazi, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous tout d'abord, qu'est-ce qui a expliqué votre présence au processus de paix de Nairobi 3?
Bien, la société civile a été invitée à participer au processus de paix de Nairobi 3 par le fait que les groupes armés devraient prendre des engagements fermes de pouvoir déposer les armes. Dans bien de cas, c'est la société civile qui a été à côté de ces groupes armés pour les sensibiliser de s'aligner sur le programme du gouvernement. C'est ainsi que nous avons été invités à pouvoir les assister pour qu'ils puissent signer les accords selon lesquels ils devraient déposer les armes et permettre ainsi le processus à faire son chemin, afin que ceux qui attaquent le pays, notamment le Rwanda à travers le M23, qu'on n'en parle plus, pour qu'on laisse la place aux forces régulières, donc les FRDC et les forces de l'EAC. C'est ainsi que nous avons dû y participer à ce titre-là.
Et quel a été l'apport spécifique de la société civile à ces processus de paix?
La société civile, outre ce travail-là, a éclairé donc l'opinion de ceux qui sont les décideurs sur bien des cas. Nous avons élevé aussi la voix pour demander à ce qu'il n'y ait pas une zone tampon, parce qu'une zone tampon risquerait de créer une zone qui deviendrait un jour le Swaziland, le Lesotho ou de toute autre chose que ça.
Et qui a demandé à ce que cette zone tampon soit installée?
En fait, comme vous le savez, avec les accords de Luanda, on a demandé à ce que les forces de l'EAC, donc les forces kenyanes, qui constituent les forces de l'EAC, donc East Africa Community, puissent s'interposer entre les rebelles et les forces régulières, créer ainsi une zone tampon afin de permettre au M23 d'avoir un espace. Nous avons dit que il ne doit pas y avoir un espace qui puisse arriver à devenir un espace à problème. Donc le M23 doit rentrer là où il est sorti.
Et une autre question, dans votre déclaration finale, vous, la société civile, vous exigez la cessation de l'implication de la communauté internationale à travers les USA, l'Union africaine, la France et d'autres puissances étrangères dans la persistance de la crise devenue chronique dans nos provinces et dans notre pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bien, c'est une aberration, si vous voulez, si vous permettez les termes, qu'un pays en guerre, on ne puisse pas le permettre à ce qu'il puisse s'acheter les armes. C'est une absurdité. Alors, nous avons pensé élever la voix aussi en ce sens-là pour dire que les États-Unis, la France et toute autre puissance qui agissent pour interdire à la République démocratique du Congo puissent se retirer dans ces idées-là et permettre à la République de se doter les armes nécessaires afin de faire barrière à toute autre puissance et à tout mouvement de rébellion.
Et vous qui avez participé à ces processus de TP de Nairobi. Croyez-vous en la bonne foi de ces groupes armés à déposer les armes une fois pour tout?
Eh bien, nous ne croyons pas totalement à la bonne foi de ce groupe armé, parce que ce groupe armé, c'est pas pour la première fois qu'ils font du mal, du tort à la population congolaise. Nous sommes très prudents, c'est pourquoi ensemble avec tous les groupes armés ainsi aussi avec les délégués du pays, on doit être très très prudents, et nous le sommes, pour dire attention, c'est vrai qu'on doit demander aux groupes armés de déposer les armes et de marcher ensemble dans le programme du PDDRCS, mais il faudra aussi qu'il y ait la bonne foi de ces pays belligérants. Ce dont, comme vous venez de poser comme question, ce dont on doute encore jusqu'à ce que nous soyons rassurés qu'ils ont déposé les armes. Néanmoins, ce qui est bon du côté des groupes armés, ils ont signé un engagement de pouvoir déposer les armes et laisser les forces loyales, donc les FRDC et les forces de l'EAC, de pouvoir faire leur travail.
Et qu'est-ce qui différencie ces consultations de Nairobi 3 par rapport aux précédentes, donc les consultations 1 et 2 de Nairobi?
Donc les premières consultations, notamment celles qu'on a appelées Nairobi 1, il n'y avait que les politiques. Mais cette fois-ci, dans Nairobi 2 et 3, il y a des acteurs de la société civile. Dans Nairobi 3, on a retrouvé aussi non seulement les acteurs de la société civile, mais aussi les victimes, ceux qui ont payé un tribut très lourd dans ce conflit-là, y compris aussi les groupes armés. C'est en quoi la petite différence entre Nairobi 1 et 2 et 3. Nous espérons que tous les acteurs dans ce conflit là-bas, chacun prendra la chose à la hauteur.
Monsieur Modeste Kabazi, je vous remercie.
Je vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal, l'édition vespérale en langue française sur Radio Okapi. Merci à vous tous qui l'avez suivi.